Oui, à Kinshasa, nous revenons ici à Kinshasa pour ouvrir la deuxième séance de questions et réponses. Vous connaissez la règle. Éteignez vos portables ou mettez-le sous mode silencieux. Présentez-vous et on vous donnera la parole. Kinshasa, nous commençons par la droite par deux questions.
Merci pour la parole. Théodore Ngandou au compte de Télé7. La question, c'est en rapport avec la Commission électorale nationale indépendante. Je voudrais savoir... quel rôle la MONUSCO, au jour d'aujourd'hui, peut jouer pour arriver à décrisper la situation qui prévaut actuellement à la CENI, qui semble, selon certains observateurs, bloquer les déroulements normaux du processus électoral, avec la démission du vice-président et d'autres qui pourront peut-être s'en suivre. Bon, c'est pas la position de la MONUSCO par rapport à cette situation et laquelle.
Merci pour votre question, votre préoccupation qui, il faut le relever, est d'une importance capitale parce que nous nous acheminons progressivement vers la phase des élections. Ce que je voudrais tout simplement rappeler, c'est que il incombe aux acteurs politiques et aux Congolais de voir comment résoudre tous les problèmes qui se posent justement à ce processus électoral pour qu'une solution puisse être trouvée. Ce que nous pouvons dire, tout simplement, c'est que nous réitérons l'indépendance de la CENI pour un processus électoral crédible dans lequel les résultats qui sortiront des urnes vont correspondre exactement à l'expression de la volonté des Congolais. Évidemment, cette question nous interpelle au plus haut point et nous ne cessons de mettre en œuvre toutes nos synergies pour inviter les différents acteurs à créer un espace de dialogue et je pense très bien d'ailleurs que cette préoccupation que vous venez de soulever, je pense que suite à une réunion interinstitutionnelle qui a été tenue très récemment ici à Kinshasa, je pense que tout le monde s'est accordé sur la même vision qui consiste à favoriser ou mettre tout en œuvre pour que justement le processus puisse se poursuivre, pour se poursuivre avec tous les acteurs concernés. Donc toujours, merci, nous restons toujours à Kinshasa pour prendre une deuxième question sur la gauche. Passez le micro à quelqu'un. Une dame de préférence, parce que quand ils ouvrent le débat quand même, il devient plus animé. Oui.
Merci pour la parole, c'est Saint-Germain des Prés pour les comptes de Géopolice. Dans votre édition de compte relative aux activités de la MONUSCO, vous avez parlé, entre autres, de la stratégie opérationnelle pour la lutte contre l'insécurité à Beni. Ceci me rappelle l'entretien que les experts onusiens ont eu récemment avec le Conseil de sécurité, n'est-ce pas, auquel il a recommandé un appui numérique supplémentaire.
S'il vous plaît, laissez-le
poser
sa question.
N'est-ce pas, les experts onusiens ont demandé au Conseil de sécurité, ont recommandé plutôt au Conseil de sécurité un appui numérique supplémentaire au casque bleu afin qu'il soit en mesure de mieux vaquer à la protection de la population civile dans la région de Beni. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous répondez à ces experts?
Oui, merci pour votre question qui, il faut le rappeler, est assez confuse parce que vous parlez des activités menées par cette unité de la MONUSCO qui s'appelle le SOLIP, la stratégie opérationnelle pour instaurer la sécurité aussi bien à Beni et à Otcha. Et nous avons fait ici l'économie des activités qui ont été menées la semaine dernière par cette unité-là qui travaille en étroite collaboration et en coopération avec les forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi la police nationale congolaise. Votre deuxième aspect de votre question, je pense, qui est relatif au rapport du groupe des experts des Nations Unies qui a été publié tout récemment. Donc je pense que si on sépare les deux questions, je peux vous dire que la SOLIB fait son travail sur le terrain et je viens d'indiquer quels sont les résultats qui ont été engrangés au cours de la semaine passée concernant les activités qui ont été menées avec la police nationale congolaise. Maintenant, votre question qui a trait au groupe des experts. D'abord, il faut il faut recadrer cette entité et des Nations Unies vraiment dans son, si je peux le dire, dans son cadre normal. Ce comité seconde, en fait, ce groupe des experts vient seconder le comité des sanctions des Nations Unies qui a été créé par la résolution 1533 en 2004 et qui avait pour mission justement d'aider ce comité des sanctions à mener des enquêtes, à mener des activités sur le terrain. Et ce comité de sanctions créé en 2004 sur la République démocratique du Congo et rend compte au Conseil de sécurité par le secrétaire général des Nations Unies des observations, des indications qui ont été relevées sur le terrain suite à un séjour. Donc, je pense que vous l'avez indiqué vous-même, ce rapport épingle aussi bien la MONUSCO que les forces armées de la République démocratique du Congo concernant justement la protection des populations civiles. Mais vous conviendrez avec moi, vous et moi qui sommes sur le terrain depuis fort longtemps, vous conviendrez que beaucoup d'efforts ont été menés sur le terrain par les deux forces coalisés ou de manière unilatérale pour mettre un terme, si vous voulez, à l'activisme des forces négatives, aussi bien dans la région de Béni que dans d'autres régions de la République démocratique du Congo. Donc, nous avons pris acte aussi des observations qui ont été relevées dans ce rapport-là, et au niveau de la MONUSCO, nous transformerons ces observations en mode d'action futur qui nous permettent de conjuguer nos efforts, mais aussi, comme je le dis, de fédérer nos intelligences et nos moyens pour arriver à mieux sécuriser les populations civiles. Merci pour cette question. Nous partons tout de suite à Goma pour prendre deux questions. Goma, vous êtes en ligne? Vous avez le micro. Goma, est-ce que vous nous entendez? Apparemment, nous avons des problèmes techniques avec Goma. En attendant que ce soit résolu, nous restons à Kinshasa pour prendre
Goma une autre question. Très bien.
Oui, donc nous restons à Goma, autant pour moi. Oui, Goma, vous avez deux questions. À vous la parole. Oui, Goma, on ne vous entend pas.
La société civile. Oui, est-ce que vous m'écoutez?
Oui, là, on vous entend mieux.
Oui, j'ai dit. Hein? Ok, merci. Moi, c'est Jérémy Okonkwo.
Oui, oui, allez-y, posez votre question.
Est-ce que la MONUSCO, la MONUSCO est-elle informée que la société civile du site de Lubero a donné un délai, un ultimatum de 14 jours? Une fois, si vous ne rétablissez pas la paix dans cette partie de la province, il faut que vous en parliez vos effets dans cette partie du Nord Kivu. Est-ce que vous êtes informé? Quelle est votre réaction?
Je dois dire que je n'étais pas informé de cette position de la société civile de Lubero. Par contre, je sais que il y a deux semaines environ, la même question avait été posée par une collègue de Antenne A, mais concernant la société civile de Béni. Vous parlez d'un ultimatum qui a été donné à la force de la MONUSCO. Quoi que je dise, c'est vous qui me l'apprenez. Mais je dois tout simplement indiquer une chose. Cette société civile doit aussi contribuer, ou en tout cas nous aider, les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO, pour arriver à mettre en œuvre les stratégies que nous avons communément définies pour neutraliser les groupes armés conformément à notre mandat par ailleurs. Si les efforts faits sur le terrain ne sont pas perçus de manière positive, nous comprenons très bien que les populations puissent l'exprimer haut et fort, ce qui nous permettra en toute humilité de revoir notre copie avec les FRDC pour poursuivre le travail. Toutefois, je l'indique souvent. La dernière fois, je parlais exactement de cet exercice de lapidation qui se poursuit toujours contre la MONUSCO, parce que la MONUSCO est censée être la responsable première de la sécurité des Congolais, si je comprends bien, ce qui n'est pas le cas. Il faut le relever et il faut oser l'affirmer que la responsabilité première appartient aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas là dans un rôle de substitution, je le rappelle, mais dans un rôle d'appui, dans un rôle de soutien, dans un rôle d'accompagnement. Donc je pense qu'il ne faudra pas que les gens se trompent de cible, parce que la MONUSCO présente sur le terrain a d'abord un effet dissuasif compte tenu de notre déploiement sur le terrain, de l'espace que nous contrôlons avec les forces armées de la République démocratique du Congo, mais je dis que nous prenons acte et en considération justement cette expression de la société civile de Lubero, mais nous leur demandons encore une fois de mettre la main à la pâte et de nous aider à mener ce travail-là, parce que, encore une fois, je le rappelle, la sécurité, c'est l'affaire de tous, pas l'affaire de la MONUSCO à elle seule. Donc, nous prenons une deuxième question à Goma. Goma, une deuxième question, s'il vous plaît.
Oui, c'est Gina Moulumba pour le compte de Citizen. Monsieur Bass, je vais revenir sur cette journée internationale du 2 novembre. Et j'aimerais savoir si la MONUSCO a-t-elle dressé un bilan suite aux crimes contre les journalistes et violations de leurs droits en République démocratique du Congo, et surtout par rapport à la période électorale, si je peux le dire, qui d'une certaine manière pointe à l'horizon. Merci.
Oui, je suis au regret de vous dire que je n'ai pas les statistiques en tête. Je ne sais pas si quelqu'un de l'UNESCO est là pour nous donner un coup de main dans ce sens-là. Mais ce que je peux tout simplement vous dire, vous avez circonscrit votre question à la période électorale vers laquelle nous nous acheminons. Je dois tout simplement dire que le Bureau conjoint des Nations Unies, qui fait le suivi, le monitoring, justement de toutes ces violations relatives à la liberté d'expression des journalistes, et qui de manière régulière, de manière périodique, le directeur du bureau conjoint est venu ici vous faire le bilan, ou en tout cas faire le point de toutes les violations qui ont été relevées et qui ont été soumises aux autorités congolaises pour que ensemble des solutions puissent être trouvées, et afin que l'on mette un terme justement à ces différentes violations. Mais je pense que nous chercherons les informations relatives aux statistiques concernant le nombre de journalistes en RDC qui ont fait l'objet. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête pour ne pas me tromper, et nous reviendrons vers vous pour partager avec vous. Merci pour cette question. Nous revenons tout de suite à Kinshasa pour prendre une question ici à Kinshasa, au moins une dame qui se singularise des autres dames de Kinshasa. Allez-y, madame.
Voilà, c'est Tatiana Kapinga pour Couleur Télévision, le programme Info des Nations Unies. Ma question, c'est par rapport à la lutte contre la pauvreté. Tout à l'heure, M. Sylvestre a parlé, il a parlé des indices et de rapports du PNUD. Ce qu'on veut savoir, c'est que des OMD aux ODD, qu'est-ce que vous avez réalisé sur le terrain ici à RDC? Qu'est-ce que vous avez prévu pour remédier aux problèmes très sérieux de la pauvreté ici à RDC, quoi que les indices d'autres pauvres ou disent le contraire de ce qu'on vit?
Oui, merci donc Sylvestre. Quelles sont les réalisations sur l'objectif millénaire du
développement? Je ne saurais pas vous donner un bilan. Sur les OMD, un bilan exhaustif. Toujours est-il qu'il y a, je pense c'est peut-être la semaine passée ou la semaine avant, Florence à ce micro a eu à vous dire que des 15 OMD, il y avait principalement deux points qui avaient connu des améliorations en République démocratique du Congo. C'était concernant la santé maternelle et l'éducation. Maintenant, on passe à l'étape des ODD, Objectifs de Développement Durable. Et je vous ai dit qu'il y a une session actuellement en cours qui se termine aujourd'hui, et au bout de cette rencontre d'aujourd'hui, il y aura certainement des décisions, des recommandations qui vont orienter, parce que comme je vous ai dit, la session a comme thème lutte contre la pauvreté et les inégalités dans le programme de développement pour l'après 2015. Donc il se situe tout à fait au-delà des OMD et embrasse déjà les ODD. Résolutions et décisions seront rendues publiques aujourd'hui à l'issue des travaux, et on vous dira quoi la semaine prochaine.
Grand merci à Sylvestre pour toutes ces explications. Je rappelle au passage à nos collègues de Kinshasa et de Goma que nous avons à Goma le général Santos Cruz qui pourra prendre toutes les questions d'ordre sécuritaire et militaire. Mais aussi que nos collègues de l'équipe pays qui sont là pourront, dans leur domaine de compétences respectifs, répondre à vos préoccupations. Donc nous prenons une deuxième question ici à gauche, je viens de la droite d'ailleurs. Le micro ici, s'il vous plaît. Oui, passez le micro, c'est lui qui l'a demandé, oui. Merci.
Merci, Nkere Maï de l'agence congolaise de presse, a considéré le tableau sécuritaire que nous a présenté le colonel Amouzou. Il me semble qu'il y a un calme, au nord Kivu et ailleurs, et qu'on constate seulement des meurtres, des kidnappings et des enlèvements. Est-ce que ça signifie que pour le moment il n'y a plus, des troupes, des groupes armés organisés et qu'il n'y a que des bandits et pour lesquels la force de la MONUSCO est en appui aux forces armées de la RDC doivent changer de tactique?
Oui, merci pour votre question, mais je vais la référer tout de suite au général Cruz et éventuellement je pourrai apporter des éléments additionnels. Mon général, la parole est à vous.
Beaucoup pour la question sur la situation sécuritaire. Pour moi, il n'y a pas de différence entre bandits et groupes armés. Pour moi, ils sont tous bandits, tous criminels. Alors, je vais parler de sécurité, les problèmes que nous avons avec les criminels des groupes armés et Maïmaï. Il y a préoccupation militaire, il y a préoccupation de sécurité publique. Il y a un ensemble de problèmes. Pour nous, nous faisons ce qui est possible pour soutenir la FRDC. Il y a la nécessité d'une police forte. C'est très important à ce moment ici, la FRDC et la police nationale. Pour nous, c'est le soutien, ce n'est pas le rôle principal, parce qu'il y a la structure nationale du gouvernement avec la police, avec l'armée. La stratégie opérationnelle, c'est l'élimination des bandits. C'est la neutralisation du groupe armé. Neutralisation, c'est une mort que c'est nécessaire d'arrêter ou éliminer. Il n'y a pas d'option. Alors, l'ADF sont criminels. Il y a à ce moment un travail conjoint de la FRDC et MONUSCO. Au niveau de Beni, à l'est de Icha, dans la région, pour une action offensive contre les bandits d'ADF. Les rapports de groupe d'experts, il n'y a pas de nouvelle considération sur le problème. Hein? Parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais il y a des questions fondamentales. La question, c'est qui est exactement les ADF et qui sont les bandits qui sont à dernière de l'ADF pour la imagination de niveau criminel que nous avons là-bas. Alors, Le rapport n'a pas touché les points fondamentaux. C'est nécessaire, mais il y a beaucoup d'informations intéressantes, importantes. La société civile s'est fatiguée. S'est fatiguée, non pas maintenant. S'est fatiguée quand j'ai arrivé ici, deux ans derniers. Alors, ce n'est pas possible de dire quelque chose. La seule chose, c'est le travail que nous besoin faire pour renforcer la police nationale, renforcer la FADC et la MONUSC soutenir les activités militaires et policières pour combattre, pour éliminer les bandits dans la route, au niveau des peines. Hein? Alors, là, il n'y a pas beaucoup de considérations complexes, compliquées sur les stratégies. La stratégie est attaquer, offensive, pour éliminer les bandits. Merci beaucoup.
Oui, merci au général Santos Cruz pour ses explications. Peut-être juste en complément de ce que le général vient de dire, car comme vous l'avez bien compris, il a circonscrit en mettant l'accent sur les activités des ADF et de certaines activités d'envergure qui ont été récemment menées par les FRDC, soutenues par la MONUSCO, particulièrement à Moutara et à Tokaka, qui sont des localités situées à peu près à 6 km au sud de Eringeti, et les efforts se poursuivent, la coordination se poursuit sur le terrain avec les FRDC qui sont déterminés à prendre en compte cette nouvelle menace ou cette ancienne menace qui s'est exprimée encore depuis quelque temps dans la région de Beni contre les populations civiles menées par l'ADF. Merci beaucoup, mon général, pour ces explications. Donc, nous revenons ici à Kinshasa. Ah, tiens, je vois que, oui, encore une dame, mais magnifique. Passez le micro, s'il vous plaît.
Ok, c'est Fanny Walelou pour le compte de Wapicom Télévision. Ma question s'adresse à Félix. L'environnement demeure souvent une victime silencieuse en temps de guerre et de conflits armés. Maintenant, ma question, c'est de savoir... comment protéger l'environnement pendant la période de guerre et de conflits armés? Merci.
Merci. Je pense que votre question est d'une importance capitale, parce que quand on parle d'environnement, on parle de vie. Et je pense très bien que récemment encore, le ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo a mis l'accent justement sur l'importance que revêt l'environnement, surtout dans la perspective de la conférence de Paris qui va se tenir très bientôt, et que, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est une réserve importante pour l'humanité en termes de forêts. Maintenant, comment est-ce que nous concilions justement le respect de l'environnement et les opérations qui sont menées sur le terrain? Vous savez, d'abord, je pense qu'il y a des services spécialisés en République démocratique du Congo qui s'occupent justement de la nature, de l'environnement, et la MONUSCO ou les Nations Unies de manière très générale sont très à cheval sur le respect de l'environnement, parce que, comme je l'ai dit, nous y tirons notre source de vie. Et au plan militaire, nous respectons l'environnement, en ce sens que, juste à titre d'exemple, quand les troupes de la MONUSCO se déploient quelque part, et vous savez très bien que suite à leur séjour dans un endroit, vous avez certains restes d'aliments, etc. Nous prenons ça très au sérieux, et les gens prennent toutes les dispositions pour nettoyer les zones où ils se sont déployés. Et vous savez aussi que l'environnement, quand on ne parle contenu des munitions qui sont utilisées en temps de guerre, je pense que le service de déminage des Nations Unies aussi fait un excellent travail dans ce sens-là pour dépolluer l'environnement causé par, si vous voulez, tout ce que nous observons comme munitions explosées ou non explosées dans cette région-là. Oui, c'est au cœur de notre préoccupation, et nous travaillons avec les autorités congolaises pour préserver cet environnement, préserver cette nature qui est source de vie. Donc, merci beaucoup. Nous rendons tout de suite à Goma pour prendre encore deux questions rapides et brèves à Goma. Goma, rapidement, deux questions brèves.
Voilà, merci. Moi, c'est Arcadius de la radio Alpha Omega. En fait, ma question s'adresse au général Santos. Je n'ai pas été vraiment convaincu totalement de la réponse qu'il a donnée tantôt concernant les kidnappings qui se font sur des routes au nord Kivu. Certes, il y a maintenant des gens, des agences humanitaires qui sont kidnappées. Nous avons eu un cas il n'y a pas trop longtemps à Walikale. Alors, il me semble que c'est un commerce lucratif que ces gens sont en train de mener. Alors, je voudrais savoir concrètement qu'est-ce que la force de la MONUSCO est en train de faire. Quelles sont les mesures déjà prises, si elles peuvent être communiquées ou si elles sont encore à la cuisine. Moi, je voudrais savoir totalement.
Merci beaucoup. Il y a problème sécuritaire à long de la route. Il y a problème dans la route, beaucoup de problèmes entre Rwindji et Kanyabayonga. Maintenant, quelques problèmes dans la route à Walikale. Parce que les bandits sont là pour faire les kidnappings, pour assaulter les véhicules. Et il y a beaucoup de agences humanitaires, il y a beaucoup de Congolais, ce n'est pas seulement l'agence humanitaire. Il y a beaucoup de Congolais. Tous les jours, il y a kidnapping de citoyens. Hein? Alors, c'est un problème de sécurité pour nous, pour la police, pour la FRDC, pour les gardes du parc national. C'est nécessaire une concertation pour vérifier qu'est-ce qui est possible de faire. Parce que après le kidnapping, c'est une négociation. Hein? Et savoir avant, c'est très difficile. Seulement s'il y a l'information. Alors, le kidnapping, type de crime, que les bandits ici dans la région ont développé ces moments, et il y a quelques mesures. Utiliser les véhicules pour avec la sécurité, tous les véhicules ensemble pour faire la sécurité. Il y a quelques mesures, mais c'est nécessaire une concertation avec la police, parce que la police nationale est spécialisée dans les problèmes de crimes de sécurité publique. Et nous sommes prêts pour travailler ensemble, mais c'est très difficile de savoir exactement. Le problème de considérer un commerce lucratif, c'est un problème de rançon. Hein? Le problème de rançon, si il y a le paiement de rançon, il y a la possibilité d'augmentation du problème. Alors, c'est nécessaire un travail, une réunion avec tous les peuples, la société civile locale, la police et les agences humanitaires qui sont dans le terrain.
Oui, merci mon général pour ces explications. Il faut retenir tout simplement que le mode opératoire requiert une coordination beaucoup plus accrue. Mais ce que je voudrais juste dire en complément, c'est que d'abord, il faut vous dire que la MONUSCO condamne avec la dernière rigueur ce genre d'actes criminels perpétrés contre les humanitaires en particulier, qui, comme vous le savez, s'activent, s'échinent tous les jours pour apporter un peu plus de réconfort à toutes ces populations civiles. La deuxième chose que la MONUSCO note, c'est que nous félicitons les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont contribué à la libération de ces otages-là, mais aussi nous félicitons tous ces otages qui ont fait preuve de courage pendant tout leur temps de captivité. Ce qui nous amène en conclusion à une seule chose, c'est reprendre très rapidement la coopération entre les forces de défense et de sécurité congolaises et la force de la MONUSCO pour mieux harmoniser nos stratégies et les mettre en œuvre de manière efficace. Merci. Donc, je vous reprends une question à Goma pour la donner ici à Kinshasa, compte tenu du temps qui nous reste. Oui, une question à Kinshasa, ici sur la gauche. Une question brève et rapide. Hein.
Merci. Je voulais que M. Sylvestre puisse nous dire la suite que l'OCHA a réservée aux opérateurs économiques qui ont dénoncé hier les détournements de plus de 600 millions à travers un sitting qui est organisé hier dans une des villes katangaises. Et si c'est possible de nous relater la genèse de ces détournements de plus de 600 millions par les humanitaires de l'OCHA.
Merci. À vous.
Je ne sais pas d'où vous tenez ce chiffre. C'est vrai qu'il y a une situation très délicate au niveau de notre bureau à Lubumbashi. Les autorités compétentes congolaises et des Nations Unies sont saisies de la question. Des enquêtes sont en cours et il serait malvenu, pendant que des enquêtes sont en cours, qu'on se mette à commenter ou à donner des éléments qui doivent être éventuellement confirmés par les services qui sont en train de mener des enquêtes.
Oui, merci. Donc, nous prenons une dernière question ici à Kinshasa. Oui, donnez le micro au fond très rapidement avant qu'on ne rende l'antenne à Radio Okapi dans une minute. Très rapidement et très brièvement aussi.
Oui, il y a Anthony Chamba pour les comptes de...